jour avec le Père Willem.
Devenons des voix d'espérance. Il est frappant de voir dans les témoignages reçus que ceux qui portent haut les couleurs de l'espérance pratiquent aussi à des degrés divers une forme ou une autre de retour sur soi ou de prière. Témoignages reçus au cours des années, à l'occasion de la nouvelle année, à l'occasion de l'échange des vœux. Voilà des témoignages qui donne du sens à la vie et qui apporte un souffle nouveau, le souffle de l'espérance. Comme pour la foi en Dieu, il ne s'agit pas ici de prendre ce mot dans son sens purement religieux ou formel, car on peut aussi prier en disant un poème, en dialoguant avec son ennemi, en touchant la main et en tendant cette main à un nécessiteux. Ici, prier est une forme de méditation qui suppose une relation. C'est reconnaître la présence d'un autre que soi et aussi tout simplement tourner son regard de la surface des choses vers les profondeurs. S'intérioriser pour trouver au plus profond de soi la force de changer de regard, d'habiller le monde de lumière dans une résistance salutaire au nihilisme sous toutes ses formes. Ce nihilisme qui sans cesse menace de nous endurcir, de nous faire perdre notre âme aimante et désirante, d'anéantir de l'intérieur l'espérance et de réduire à ne plus même croire dans l'étincelle d'humanité qui existe en tout homme, dans la possibilité même de la joie. Oui, il importe de proclamer que Dieu n'est pas mort, ni l'homme, ni l'amour, ni la joie. Devant la menace du mal qui a toujours pesé sur l'humanité, chacun à sa façon résiste à la tentation de ne plus y croire. Chacun apporte sa pierre à la demeure commune et fait sien le projet défini par Salaciétier. En ces termes, je suis de ceux qui croient que le rôle de chacun est d'ajouter un tout petit peu d'humanité supplémentaire à ce qu'il a trouvé en lui en arrivant au monde. Et à travers sa propre construction, c'est le bien fait. Et si elle est inspirée, il ajoute de l'humanité à son humanité. Une petite peau diaphane supplémentaire, une toute petite peau, mais alors elle est décisive pour un avenir possible. S'indigner, s'engager auprès des plus faibles, écrire, dialoguer, prier, témoigner, inspirer, éveiller, autant de façons diverses et singulières pour de nombreux chrétiens, ça nous invite, alors on ne va-t-il pas ? Oui, dans la relation de l'enfant à sa mère ou à son père, l'enfant est unique et il doit ensuite devenir normal, c'est-à-dire réussir l'école, faire du sport, etc. Il doit ainsi, en quelque sorte, acheter l'amour de ses parents en faisant ce qu'il souhaite pour lui. Il y a là un passage de la personnalisation à la normalisation qui est propre à chaque classe sociale, religion, etc. On en découvre que beaucoup de personnes avec un handicap mental sont dans un état d'attente de cette personnalisation. Jean Vanier parle de Pauline, cette petite Pauline qui est venue à l'Arche quand elle avait 40 ans, en 1973. Elle était hémiplégique, avec une jambe et un bras paralysés, épileptique et de surcroît diabétique. Mais ce qui était très caractéristique chez Pauline, c'était sa violence qui se manifestait hurlant, cassant, criant. On a beaucoup travaillé avec notre psychiatre de l'époque qui nous a aidé à comprendre 40 ans d'humiliation. Tu es handicapé, tu es ça, tu ne comprends rien. C'est ce qu'on lui disait. Beaucoup de personnes avec un handicap mental sont humiliées et sont considérées comme une non-valeur. Elles peuvent aller dans des écoles spécialisées, mais personne ne les regarde comme des êtres humains à part entière. Les lépreux sont dans une situation similaire. Et François d'Assise disait qu'il avait les lépreux en répulsion jusqu'au jour où il les a rencontrés. En les quittant, il y avait une nouvelle douceur dans son corps et dans son esprit. C'est très fort. À partir de là, il a voulu s'engager chez les pauvres. Radicalement. Et l'Arche de Jean Vanier est un lieu où l'on cherche à permettre à ceux qui ont été humiliés de découvrir qui ils sont, c'est-à-dire de s'engager dans un processus de personnalisation. Leur beauté, leur intelligence peuvent être affaiblies, mais leur capacité de cœur, leur capacité d'entrer en relation avec l'autre sont, elles, d'une force incroyable. Le handicap mental touche la raison, la rationalité, la volonté aussi. Mais les personnes avec un handicap mental sont plus libérées au niveau du cœur et des relations. Elles se moquent des coutumes, des tabous ou de la politesse. Elles sont des hommes et des femmes, libres, libres d'aller à l'encontre des conventions de façon spontanée. C'est ce qui m'a frappé lorsque j'ai vécu quelques jours dans un centre de Jean Vanier. Il y a quelque chose qui est difficile à comprendre. Ceux qui décident de vivre avec des personnes comme Pauline viennent avec le désir de faire du bien aux pauvres, au nom de l'Évangile, au nom de l'humain. Ils sont généreux. Mais que se passe-t-il? En vivant avec des personnes qui ont été profondément humiliées, ils commencent à les rencontrer et découvrent qu'elles sont plus libres qu'eux-mêmes. Et ils sont pris dans ce qu'on peut appeler la tyrannie de la normalité. Cela touche des choses très profondes. Une personne qui, dans la nièce, était dans un état de grande fragilité, elle proposait que cette jeune femme aille vivre à l'Arche. Après 3 mois passés dans la communauté, elle était complètement transformée. Alors, que s'est-il passé? C'est que dans la tyrannie de la normalité, nous cachons nos faiblesses. Il nous faut apparaître sur notre meilleur jour, avoir un bon curriculum vitae, montrer qu'on est fort, qu'on est capable. Il nous faut montrer toutes nos qualités. Et dans cette tyrannie, nous ne voulons pas admettre qui nous sommes. Nous ne voulons pas admettre que nous, êtres humains, nous sommes programmés par nos gènes pour grandir et puis à un moment pour descendre. Nous ne voulons pas admettre cette union entre force et faiblesse, notre cœur fragile. Alors beaucoup de ces incitants qui viennent à l'Arche avec le déni de faire du bien, d'être honorés parce qu'ils font du bien, découvrent tout autre chose en s'occupant des pauvres. Ils apprennent peu à peu à accueillir leur propre fragilité, leurs difficultés relationnelles, mais aussi à accepter que les personnes avec un handicap ont quelque chose qu'eux n'ont pas.